Bonjour à Christelle et merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Donc vous êtes président de la région Pays de la Loire. Pour mémoire, la région Pays de la Loire, c'est la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Vendée, la Sarthe et la Mayenne, hein, pour si tout le monde n'a pas la carte en tête. Donc c'est, je ne sais plus combien de personnes exactement, mais vous allez nous dire ça. Et vous êtes, je précise que vous êtes conseillère régionale depuis 2015 et que vous êtes président de la région depuis 2017. Et donc vous avez déjà attaqué un deuxième mandat. Je voulais simplement vous présenter un petit peu plus parce que vous avez un parcours qui est quand même inhabituel dans le sens où très rapidement vous êtes devenue présidente de région. Ça n'arrive pas souvent puisque vous n'avez commencé, vous n'êtes entrée en politique comme on dit, en 2014, en étant conseillère municipale du Mans, conseillère communautaire de la métropole du Mans. Et donc, dès l'année suivante, 2015, vous avez été élue conseillère régionale. Et deux ans plus tard, présidente de région, vous avez pris la suite de Bruno Retailleau, donc à la tête de la région. Vous me corrigez hein, si je dis des âneries, hein, on ne sait jamais. Et 2019, un autre fait marquant qui est peu connu, c'est que vous êtes devenue président du conseil de surveillance du grand port de Nantes-Saint-Nazaire, ce qui apparemment est une première en France, puisqu'habituellement ce ne sont pas des élus, en tous les cas régionaux, qui dirigent ce genre de structure. Et depuis 2021, donc vous avez été réélu à la tête de la région. Alors moi, la première question que je me pose, c'est que quand même, il faut savoir qu'en 2014, quand vous êtes lancée en politique, vous étiez déjà une femme très dynamique, très active, puisque vous aviez déjà des enfants, vous êtes chef d'entreprise, puisque vous avez créé un réseau immobilier, méga agence en l'occurrence, avec votre mari qui est ici, que j'ai vu. Donc je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a motivé, quand on est quand même déjà très occupé, pour vous lancer en politique ?
Bien, bonjour à toutes et tous. Très heureuse d'être à vos côtés aujourd'hui. Je remercie l'association A lieu une rencontre pour votre invitation. Merci aussi à Viviane qui m'avait contactée tout début d'année pour pouvoir participer à ces rencontres. Vous le savez, j'ai un attachement tout particulier à l'Île-Dieu. J'aime souvent dire que je suis un peu comme la Vendée, un double cœur. Je suis sartoise, née sur Le Mans, mais ce double cœur parce que cet attachement à l'Île-Dieu, d'où ma présence aujourd'hui et d'être à vos côtés. Alors peut-être pour commencer en effet me présenter, moi j'ai 48 ans, je suis maman de deux garçons qui ont 14 et 16 ans et à la tête de cette belle région des Pays de la Loire, 3,8 millions d'habitants depuis 2017. Alors c'est vrai que j'ai envie de dire un parcours peut-être un peu atypique, puisque moi j'étais vouée à faire une carrière en politique, des études de commerce, et j'ai passé 20 ans de ma vie dans l'entreprise, notamment immobilière, en tant que salariée, en tant qu'indépendante, en tant que dirigeante, et puis en tant que chef d'entreprise, passionnée bien évidemment du milieu politique, depuis toute petite. Je pense que dès l'instant que j'ai eu mes 18 ans, j'ai toujours voté. J'ai été fière aussi de voter à l'âge de 18 ans. Passionnée plutôt des débats politiques, regarder comme peut-être tout à chacun s'y intéresser. Mais de là à imaginer un jour une carrière politique, je ne l'imaginais pas. Et en fin de compte, tout a commencé en 2014. La ville donc où je suis née, sur Le Mans, on est venu me chercher pour être tête de liste sur Le Mans, mais c'était 6 semaines avant le premier tour. Alors, pour tout vous dire, c'est vrai que c'était un peu surprenant, engagée bien évidemment dans la vie locale, et à un moment, je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux voir cette ville changer ou tu veux être plutôt attentiste, regarder et critiquer peut-être ce qui se fait, mais sans pouvoir agir. Et à un moment, je me suis dit, j'ai une opportunité, une voie qui s'ouvre à moi, et donc j'y suis allée un petit peu, je dois vous dire, peut-être comme si on vous pousse dans une piscine et vous ne savez pas nager, vous n'avez pas de brassard, pas de bouée, mais vous y allez avec détermination, et c'est vrai que ça a été le début d'une vie politique, puisque notamment sur cette campagne, j'ai failli battre le maire à quelques voix près alors que j'avais fait que 6 semaines de campagne, mais une campagne de proximité et de terrain. Et c'est ce qui m'a fait découvrir notamment Bruno Retailleau, puisqu'il m'avait envoyé un petit mot et avec justement le souhait de pouvoir participer à sa campagne des régionales de 2015. Et donc j'étais tête de liste sur le département de la Sarthe. Une fois qu'il a été élu, j'ai été sa deuxième vice-présidente. Et puis en 2017, Bruno devait faire le choix, parce qu'avec aujourd'hui la loi sur le non-cumul des mandats, sénateur et président de région, il a fait donc le choix du Sénat. Il a choisi que je prenne sa suite. C'était pas une évidence. Pour tout vous dire, quand il m'en a parlé, ben, j'ai pas dit oui tout de suite. Je lui ai dit j'ai besoin de réflexion pour trois raisons. D'abord, en tant que mère de famille, c'est vrai qu'ayant deux enfants, quand on est présidente de région, et à l'époque, je vous dis aujourd'hui, ils ont 14 et 16 ans, et il y a 6 ans, ils étaient encore plus jeunes, donc c'est pas facile, c'est un choix délicat. Et puis, mon engagement pour la ville du Mans, et surtout aussi la cohésion de notre groupe, de notre majorité au conseil régional. Et pour être très transparente, pendant trois jours, je n'ai pas dormi. Pas dormi, le matin, je me levais en disant « c'est bon, j'y vais », le soir, je me couchais, je dis « non, j'y vais pas ». Et en effet, si aujourd'hui, je suis à la tête de cette belle région, j'ai envie de dire, c'est peut-être grâce ou à cause de, je ne sais pas, mon mari qui m'a vraiment poussée dans tous mes engagements politiques. Que ce soit en 2014 ou en 2017, c'est lui qui m'a vraiment accompagnée. Et je le dis vraiment avec force, en tant que femme aussi. C'est valable en politique, mais c'est aussi valable dans le monde de l'entreprise. Quand on veut accéder à des postes à responsabilité, eh bien, il faut avoir le soutien et l'accompagnement de ses proches et de sa famille. Et donc, je me permets de remercier chaleureusement mon mari. Sans qu'il y ait rien de tout ça, je ne serais peut-être pas à vos côtés aujourd'hui. Non, jeudi, je pense que c'est important. Parce que autant, et je le dis vraiment, moi, je ne suis pas une féministe dans l'âme, mais je le dis quand même avec force, quand on est une femme... c'est plus compliqué. Vous voyez, un poste comme celui-ci, quand Bruno m'a demandé de prendre la suite, un homme aurait dit oui tout de suite. Il ne se serait pas posé du tout la question de savoir comment on gère la logistique au niveau des enfants ou quoi que ce soit. En tant que femme, forcément, on a cette sensibilité. Et si on n'a pas ce soutien et cet accompagnement de sa famille, de son mari, ça ne marche pas. Donc voilà, je voulais vous le partager, parce qu'ici, voilà, j'ai envie de vous parler aussi à cœur ouvert. Et aujourd'hui, en tout cas, ce qui est sûr, ce qui m'anime dans mon rôle de présidente de région, déjà, je prends ce rôle avec beaucoup d'humilité. Moi, j'ai fait autre chose avant de faire de la politique, et je ferai certainement autre chose après. Et je pense que ça donne aussi beaucoup de liberté. Et moi, je me bats au quotidien déjà d'être sur le terrain, d'être à la rencontre des habitants qui font la région des Pays de la Loire, qui permettent aussi de bâtir nos politiques au sein de la région, dans tous les domaines. Et je me bats pour des valeurs qui, pour moi, sont essentielles, la liberté, le travail, le mérite. Et quelque chose pour moi qui est essentiel aujourd'hui, c'est aussi la modération, la nuance. Et je trouve qu'on l'a totalement perdu en politique depuis nombreuses années. Aujourd'hui, la modération et la nuance, non, c'est vous êtes pour, vous êtes contre. Et moi, je me marre en tout cas pour ça, pour cette nuance, pour cette modération. Et trouver aussi de l'apaisement et retrouver le dialogue. Et donc, je suis ravie en tout cas de participer à ces rencontres, parce que c'est aussi un moment de rencontre, un moment d'échange. Et puis, je souhaite aussi montrer que la région des Pays de la Loire, qui est souvent vue comme une grosse administration, loin des gens, mais moi je veux être une collectivité de proximité, et j'aime souvent le dire, je veux vivre mon mandat de présidente de région comme le maire vit son mandat d'élu local, à proximité des gens, à portée d'engueulade aussi, et ça c'est ce qui fait aussi l'enjeu aussi de notre rôle en politique. Donc voilà un petit peu les raisons de mon engagement politique, et surtout, je pense avant tout, et pour terminer sur cette première question, je pense que ce qui me motive sur cet engagement politique, quel qu'il soit d'ailleurs, c'est la jeunesse. C'est peut-être la mère de famille qui a voulu saisir aussi cette occasion, parce que être en politique, c'est bien évidemment faire des actions concrètes sur le quotidien, et c'est également de se projeter vers l'avenir. Et se projeter vers l'avenir, c'est pour les générations à venir, nos enfants et nos petits-enfants. En tout cas, c'est leitmotiv au quotidien.
Alors, on l'a entendu, hein, vous êtes une femme passionnée et vous êtes fixé des priorités, on va y revenir. Mais je voulais rappeler un petit peu ce qu'étaient les compétences de la région, parce qu'en fait, on s'en rend pas trop compte, mais la région intervient à différents niveaux. En l'occurrence, donc, elle intervient pour tout ce qui est développement économique et innovation. Elle intervient pour l'orientation, la formation et l'emploi, qui est effectivement une de vos priorités, hein, on y reviendra. Elle intervient pour les lycées, sachant que par exemple les collèges, c'est le département, bah, les lycées, c'est typiquement la région. Elle intervient aussi pour l'équilibre des territoires, pour la gestion de fonds européens, puisqu'on a des subventions, les territoires bénéficient de fonds européens. Les transports, bien sûr, vous le savez, puisqu'il y a par exemple l'insula Ouya, mais pas que. L'énergie et l'environnement, qui sont aussi aujourd'hui des sujets chauds auxquels tout le monde doit s'intéresser de manière urgente, si ce n'est pas déjà fait. Et dans une peut-être moindre mesure, quoique, la culture, le sport et le patrimoine. Alors, pour vous donner quelques exemples d'intervention de la région à l'Île-Dieu, la région a soutenu l'aménagement de la zone artisanale de la Marèche, hein, puisque régulièrement il y a des travaux d'aménagement. Elle a apporté son soutien financier pour des travaux d'assainissement, donc beaucoup plus très pragmatique, pour la construction de la recyclerie, pour les travaux de rénovation de la mairie. Elle a financé bien sûr l'insula Ouya 3 qui a été inaugurée là, il y a quelques semaines. Elle participe actuellement au financement du pôle du Petit Chiron, le pôle culturel, qu'on appelle aussi médiathèque hein, communément. Et ça, on le sait peut-être pas, mais la région cofinance l'école des pêches. Et puisque, comme vous parliez des jeunes, on peut donner l'exemple de la région qui donne à tous les élèves qui rentrent en première année de lycée ou en première année de CAP, elle donne un ordinateur pour l'égalité des chances. Alors du coup, on va partir directement sur la jeunesse, hein, puisque c'est un de vos bébés, si j'ose dire. Donc, en 2022, vous avez lancé un événement qui s'appelait le Big Bang de la jeunesse. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Big Bang et qu'est-ce que ça donne si tant est qu'on puisse déjà en tirer un bilan ?
Oui, en effet, j'ai fixé trois priorités pour ce mandat : l'emploi, la jeunesse, la transition écologique. Et je vous le disais il y a un instant, pour moi, la jeunesse, c'est le cœur de mon action au quotidien, et on a lancé ce Big Bang de la jeunesse. C'est quoi concrètement? L'objectif, c'est d'avoir aussi un lien de rencontre avec les jeunes de la région des Pays de la Loire, des jeunes qui ont entre 15 et 25 ans, qui sont d'horizons complètement différents. Ça peut être des jeunes qui sont en apprentissage, en lycée professionnel, en voie générale, en enseignement supérieur ou des jeunes actifs. Et donc c'est une opération qui sera lancée officiellement. Alors on a eu des réunions de rencontres de travail courant de l'année 2022-2023, mais à partir de la rentrée prochaine, donc on aura une instance d'une centaine de jeunes au travers de nos cinq départements, et leur faire accéder d'abord, ce que j'ai envie de dire, à des rencontres, à des visites un peu exceptionnelles. Et puis aussi, moi, ça me permet d'avoir un échange concret avec eux, et notamment pour la mise en place de politiques pour nos jeunes. Et donc, que ce soit au niveau de nos lycées, mais aussi d'avoir leur regard sur les enjeux de transition écologique, d'avoir leur regard aussi sur les enjeux de l'emploi, de la culture, du sport, toutes nos compétences, de pouvoir le partager avec ces jeunes. Donc ça sera lancé courant d'année 2022-2023.
Alors, je sais que la jeunesse, il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que ce fameux Big Bang, mais que vous avez entamé des actions, des plans d'action, des ateliers divers et variés pour soutenir la jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur tout ce que vous avez mis en œuvre
pour l'instant ? Oui, moi, j'aime souvent dire sur la jeunesse, c'est d'ouvrir le champ des possibles et d'expliquer et de dire à nos jeunes qu'il n'y a pas une seule voie de réussite. C'est-à-dire, je me suis beaucoup battue et travaillée notamment pour l'apprentissage, qui a été une voie trop souvent considérée comme une voie de garage, alors que c'est une véritable voie d'excellence. Il faut savoir qu'un jeune qui suit une formation par apprentissage, 8 jeunes sur 10 trouvent un emploi 6 mois après leur formation. Et donc, c'est de sortir un petit peu de ces sentiers battus où ça fait plus de 40 ans en France, où on voit la voie générale. À l'époque, dans ma génération, c'était d'avoir le bac S. C'était voilà, la voie de la réussite. Aujourd'hui, moi, je me bats pour l'apprentissage, je me bats pour la voie professionnelle et très engagée, notamment dans la réforme du président de la République sur la réforme du lycée professionnel. C'est également des écoles de production. On est la deuxième région en nombre d'écoles de production. C'est pour des jeunes qui sont en échec scolaire, donc justement pour les mettre dans l'emploi, de leur redonner confiance. Et je pense que ça, c'était essentiel justement pour les jeunes aujourd'hui. Ils ont besoin d'être considérés, valorisés et de leur montrer justement toutes les ouvertures possibles. Et donc on travaille beaucoup aussi sur les enjeux d'orientation. On a mis en place l'Orientibus. Au point de départ, c'est parti de l'Apprentibus qui s'est transformé en Orientibus, qui sillonne l'ensemble de nos 5 départements à destination des collèges et des lycées. Et c'est un outil qui est plutôt ouvert pour les jeunes, avec notamment les notions de numérique. Vous avez des casques à réalité virtuelle où les jeunes sont en immersion dans un métier. Et l'objectif, c'est de leur faire découvrir l'ensemble des métiers sans aucun tabou. Et puis, vous l'avez dit, maintenant, ça va faire la troisième année à partir de la rentrée de septembre. On a décidé au Conseil régional de doter tous nos jeunes d'un ordinateur portable. Alors, je vous dis très sincèrement, ça n'a pas été une mesure très simple à mettre en place. D'abord, quelques réticences au sein de mon administration, parce que c'est un coût, c'est 23 millions d'euros. Des réticences aussi chez certains élus de ma majorité. Et pour moi, c'était essentiel de pouvoir doter ces jeunes d'un ordinateur portable et que ce soit pour toutes les familles, sans aucune restriction. C'est-à-dire que vous avez souvent des aides, mais en fonction des revenus des familles. Vous avez toujours quelques familles à quelques euros près qui n'ont jamais le droit à rien. Et donc moi, je voulais vraiment d'avoir cette équité également entre les établissements publics et privés. Et l'objectif, c'est pouvoir doter chaque jeune justement sur cet enjeu du numérique qui est devant nous, qu'on soit pour ou contre. Sur ces ordinateurs. Aujourd'hui, on le voit bien, le numérique est partout. Et moi, je voulais vraiment permettre à chacun de ces jeunes de pouvoir s'approprier ces outils numériques et notamment de les préparer sur l'enseignement supérieur, puisque cet ordinateur, ils le gardent également pour leurs études supérieures. Et je vois qu'il y a un jeune parmi nous qui me remerciait tout à l'heure parce qu'il est dans un lycée à La Roche-sur-Yon et donc qui a été doté de cet ordinateur. Et c'est vrai que l'objectif, c'est un, le travail à la maison et également dans les salles de classe, et qui permet, malgré ce qu'on peut dire sur les ordinateurs, que ça enferme, que ça n'ouvre pas le dialogue, bien au contraire, ça permet d'avoir des vraies interactions dans les classes. Et moi, j'ai vu quelques expériences dans nos lycées de la région et on voit une vraie dynamique, et je sais que c'est un accompagnement fort pour ces jeunes. Donc en tout cas, j'en suis très fière de cette mesure, et très fière aussi quand il y a des jeunes comme vous qui venez me voir pour me remercier. Bravo en tout cas.
Alors, je vais revenir sur l'Orientibus, parce qu'effectivement, je l'ai vu, le hasard a fait que je l'ai vu. Alors, c'est pas l'Orientibus tel que qui est arrivé à l'Île-Dieu, je sais plus quelle année c'était. Est-ce que c'est quelque chose que vous renouvelez dans les établissements chaque année? Donc, il était venu là il y a quelques années, je sais pas s'il est revenu l'année dernière. Mais est-ce que c'est une démarche que vous refaites? Parce qu'effectivement, les jeunes sont dans le flou. À l'Île-Dieu, bien sûr, ils sont encore plus jeunes puisqu'ils sont collégiens. Mais cette journée-là avait été extrêmement riche et je pense que tu l'as vécu. Toi, tu avais dû le voir. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez renouveler, et comment vous allez faire participer éventuellement nos collégiens ilais à la démarche du Big Bang?
Oui, bien évidemment, l'Orientibus, au point de départ, on est parti sur un seul Orientibus. Aujourd'hui, il y en a 5 dans l'ensemble de la région des Pays de la Loire. Il faut savoir qu'il est très sollicité par les chefs d'établissement, parce que je vous le disais il y a un instant, il est très, très novateur dans son application, et il suscite beaucoup d'intérêt auprès des jeunes. Par les applications, je vous le disais, casque à réalité virtuelle, des tablettes, des questionnaires, et puis aussi des professionnels pour venir parler avec les jeunes. Et là, aujourd'hui, moi, je veux même accentuer cet Orientibus sur l'ensemble de la région des Pays de la Loire, faire rencontrer aussi avec des professionnels et notamment des jeunes salariés des entreprises qui viennent parler à d'autres jeunes sur leur parcours, sur les métiers qu'ils peuvent exercer, parce que rien de tel qu'un jeune qui vient parler à un autre jeune. Et puis, on a déployé en 2023 un nouveau dispositif aussi qui est à destination des jeunes, mais également des demandeurs d'emploi, qui est le Big Bang de l'emploi, qui donc a sillonné les 5 départements avec 2 objectifs. D'abord, là aussi, l'orientation, avec là aussi des partenaires, des entreprises qui étaient présentes, et puis des choses aussi très, très novatrices. Et puis, de permettre de faire le geste pour les jeunes, pour la découverte des métiers. Et puis, le deuxième objectif de ce Big Bang de l'emploi, c'était aussi faire connaître les demandeurs d'emploi et les entreprises sur un territoire. Parce qu'on se rend compte sur l'emploi qui, comme je vous le disais, est une de mes priorités du mandat. Je veux être la région du plein emploi. Quand je parle du plein emploi, c'est 3-3,5%. Et aujourd'hui, même si on a le taux de chômage le plus faible de France, on n'y est pas. On est à 5,7%. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment quelquefois sur un même territoire, vous avez quelqu'un qui cherche un emploi, une entreprise, et qui ne se connaissent pas. Donc, c'est susciter aussi la rencontre avec aussi ce qu'on appelle des entretiens, mais qui sont un petit peu novateurs. Et puis aussi, bien évidemment, parler de toutes les formations qu'on peut mettre en place, parce que ça, c'est une compétence aussi forte. C'est le deuxième budget après les transports de la région, la formation des demandeurs d'emploi. Et aujourd'hui, le constat, je vous donne quelques chiffres qui, moi, me donnent un petit peu le vertige. Quand je vous dis que c'est le deuxième budget, le budget total de la région, c'est 2 milliards d'euros sur la formation des demandeurs d'emploi. Notamment, on a des formations qu'on appelle dites qualifiantes, donc qui normalement débouchent vers un métier, puisque derrière, vous avez une qualification. Et quand on voit les tensions aujourd'hui de l'emploi qu'on peut avoir au niveau de la région des Pays de la Loire, mais au niveau même national, d'ailleurs, que ce soit chez, quelle que soit, j'ai envie de dire, la taille de l'entreprise, les TPE, les artisans, les commerçants, les grands groupes, quel que soit le secteur d'activité, avant on parlait de secteurs en tension, mais aujourd'hui, tous les métiers sont en tension. Et donc l'objectif vraiment de ces formations, c'est de déboucher vers un emploi. Et le constat aujourd'hui, les chiffres, je vais vous les évoquer. Aujourd'hui, dans ces formations, on a 60% de gens qui vont vers l'emploi. Et ce que je disais à mes équipes, je dis, mais que font les 40% restants? Et donc aujourd'hui, le système, je le dis tel que je le pense, ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas parce qu'on est sur l'ancien système, j'ai envie de dire, quand on avait un taux de chômage relativement important, où on part du demandeur d'emploi et on le forme pour aller vers l'entreprise. Et aujourd'hui, moi, je veux renverser la table. C'est tout le travail que j'ai demandé à mon administration. C'est-à-dire qu'on va partir du besoin de l'entreprise et on va former en fonction du besoin de l'entreprise. Et ça change totalement les codes. Et ce qui va permettre d'avoir une exigence plus importante vis-à-vis des organismes de formation et vis-à-vis des personnes qui suivent ces formations. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu le sentiment qu'on est en train de former des professionnels de la formation. Et moi, ce n'est pas du tout l'enjeu que je souhaite avoir. Donc, c'est un changement total de manière de fonctionner. Mais je pense que c'est essentiel quand on voit toutes ces tensions dans l'emploi qu'on peut avoir. Et puis, et notamment, un accompagnement aussi pour l'ensemble des demandeurs d'emploi.
Mais comment vous pensez procéder? Parce qu'on voit bien, effectivement, je pense qu'on est nombreux à être conscients qu'il faut revoir un petit peu tout ça et adapter la formation aux entreprises. Mais c'est un travail sur du long terme. Comment vous voyez la chose? Parce que c'est vrai que travailler avec l'éducation nationale, c'est pas forcément facile non plus. Pour faire bouger les lignes, vous voyez ça sur quel délai pour que enfin nos entreprises des Pays de la Loire, mais de toute la France, trouvent des salariés, que les entreprises ici à l'Île-Dieu trouvent des saisonniers en saison ou des professionnels. La restauration, c'est une catastrophe pour trouver des cuisiniers. Bon, bien sûr, il y a le problème du logement, mais on aura sans doute, il y a bien quelqu'un qui en parlera tout à l'heure. Mais en tous les cas, comment vous comptez faire et sous quel délai pour que ça évolue tout ça?
Pour moi, il y a deux leviers. Il y a d'abord le levier de la formation initiale. Donc là, c'est tout au niveau des jeunes, l'apprentissage, la voie professionnelle que je vous évoquais il y a un instant, l'enseignement supérieur aussi qu'on doit développer. Et notamment sur la voie professionnelle aujourd'hui, quand vous regardez les chiffres, c'est juste effrayant des jeunes qui continuent soit dans l'enseignement supérieur ou qui vont vers un emploi après. Les chiffres sont laborieux. Donc on voit bien que le système ne fonctionne absolument pas. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, me semble-t-il, sur la formation initiale, et notamment que ce soit en apprentissage ou lycée professionnel, c'est essayer de regrouper aussi les établissements. Parce que vous avez les CFA, les lycées professionnels, publics, privés, etc. Et donc aujourd'hui, c'est de déterminer déjà d'avoir une carte de formation. La carte de formation, de la faire en fonction aussi des demandes et des besoins des entreprises. Et puis d'avoir des plateaux techniques où là, la région intervient fortement aussi sur l'accompagnement et la mise en place des plateaux techniques, et donc de mutualiser aussi ces plateaux techniques. Parce qu'aujourd'hui, le constat, c'est que chacun a son plateau technique, chacun fait la même formation. Si je prends par exemple la ville où je vis sur Le Mans, la restauration, vous avez peut-être 5 établissements qui font de la restauration. Mais je dis non, il faut peut-être 1, voire 2 établissements. Par contre, d'avoir des plateaux techniques qui sont, j'ai envie de dire, d'excellence, qui vont permettre aussi d'attirer les jeunes plutôt que d'avoir des plateaux techniques un peu moyens. Donc ça, c'est le premier volet sur la formation initiale. Et puis le deuxième volet, bien évidemment, ce que je disais à l'instant, c'est sur la formation continue. On a en France, malheureusement, pas l'habitude aussi de se former tout au long de la vie. Donc ça, c'est un enjeu très, très important pour les salariés, pour la montée en compétences. Et puis, encore une fois, je le disais il y a un instant, sur la formation des demandeurs d'emploi, où là, c'est essentiel aussi de faire découvrir les métiers. Je vous donne juste un exemple. Quand je vous parlais là, sur la formation des demandeurs d'emploi, le coût pour la région, donc nos impôts, pour former quelqu'un sur une formation qualifiante demandeur d'emploi, c'est entre 8 et 12 000 euros. C'est énorme, 8 et 12 000 euros. Donc on se doit aussi d'avoir des exigences et de faire en sorte que derrière, il y ait des résultats. Moi, payer 8 à 12 000 euros pour former quelqu'un s'il va vers l'emploi, ça ne me pose aucun problème. Aucun problème. En revanche, si derrière, il y a encore 40% de gens qui ne vont pas vers l'emploi, ça ne m'intéresse pas. Donc l'objectif, c'est vraiment de partir, j'insiste là-dessus, du besoin de l'entreprise et non l'inverse. Et donc c'est tout un travail de collaboration, notamment avec Pôle emploi et demain, qui s'appellera France Travail, où là aussi, j'ai signé avec la Première ministre le lancement d'une expérimentation sur France Travail, sur le territoire, et puis de travailler justement avec les entreprises et de former en fonction des entreprises, et non l'inverse. Je vous donne juste un exemple très concret. Toujours, je vais encore vous citer mon mari, je suis désolée. Il me faisait part l'autre jour d'un jeune qui a entre 25 et 30 ans, qui cherche du travail. Et donc une entreprise que mon mari connaît, et donc c'était pour faire de la logistique au sein de cette entreprise, et s'il pouvait le mettre en relation. Et quelques semaines après, il va voir mon mari, il lui dit « Non, c'est bon, j'ai trouvé une formation, d'ailleurs payée par la région, et je vais... » Deux solutions, c'est soit dans le numérique, ou je ne sais plus trop dans un autre domaine, enfin bon, bref, ça n'a rien à voir avec sa demande qu'il pensait au point de départ. Donc on voit bien qu'il y a un décalage total. Et donc d'où l'enjeu de travailler en amont avec les entreprises, et là on forme la personne demandeur d'emploi, et là ça change totalement le système. Et aujourd'hui, je vous dis, c'est totalement l'inverse. Après, l'enjeu qui va être essentiel, là encore une fois, c'est l'orientation que j'évoquais. Bien évidemment, l'orientation pour les jeunes, pour leur montrer, pour leur ouvrir ce champ des possibles, mais également pour l'ensemble des salariés qui souhaitent être en reconversion, les demandeurs d'emploi ou tout à chacun, pour montrer aussi ce champ des possibles et faire découvrir les différents métiers. Juste un exemple, l'industrie. L'industrie, aujourd'hui, plein de gens ont l'image de l'industrie de Germinal. Non, c'est terminé. Moi, toutes les entreprises que je peux visiter au sein de la région des Pays de la Loire, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Vous, par terre, c'est blanc, c'est tout propre. Il y a de la technologie, il y a du numérique. Et ça attire les jeunes. Et de montrer aussi les grands projets de demain. Si je prends Airbus, j'ai la chance d'avoir Airbus dans la région des Pays de la Loire. Et j'ai eu la chance aussi de visiter Boeing à Seattle. Et quand je vois ces deux entreprises, je peux vous dire qu'on peut être fiers, nous, en France, de montrer, de voir justement cette industrie de 4.0, cette industrie qui se transforme, parce qu'entre Boeing et Airbus, je peux vous dire qu'on peut, on a vraiment une avancée très concrète, la modernisation des chaînes de production, etc. Et ça attire. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas cette image de notre industrie, mais sur plein de métiers. Sur plein de métiers, on peut dire exactement la même chose. Et donc, à nous de travailler, mais on ne fera pas tout seul uniquement la région des Pays de la Loire. Bien évidemment, en lien étroit avec l'éducation nationale, avec Pôle emploi, avec l'ensemble aussi des entreprises. Et l'enjeu des entreprises aussi, c'est de prendre des personnes en stage, que ce soit des jeunes, des personnes qui sont en recherche d'emploi, parce que ça permet de faire découvrir aussi les métiers. Et aujourd'hui, il y a trop peu d'entreprises qui prennent aussi des jeunes en stage, notamment stage de troisième. On doit déployer beaucoup plus de stages au sein de la scolarité, parce que ça permet d'ouvrir ce champ des possibles et de faire découvrir les métiers. Il n'y a rien de tel qu'en voyant pour pouvoir s'orienter.
Alors oui, et vous venez de le dire, effectivement, vous avez évoqué Pôle emploi, vous avez évoqué les autres régions. Est-ce que vous pensez pas qu'une réforme de Pôle emploi s'impose ? Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui a été un jour au chômage sait que quand on est au chômage, ben, la plupart du temps, on est un numéro de dossier et la personne qui vous suit, malgré toute sa bonne volonté, n'arrive pas forcément à faire grand-chose pour vous, pour peu que vous ayez un profil un peu atypique, que vous ne soyez pas pile-poil dans les cases ou dans les cas de reconversion. C'est très compliqué. Donc, est-ce que vous pensez être en mesure de convaincre les autres régions de rentrer dans ce mouvement-là et d'aller plus haut, puisque là, il faut aller effectivement travailler avec les ministères pour faire bouger Pôle emploi et refondre un petit peu le fonctionnement de Pôle emploi, quoi.
C'est une réforme qui est en cours, qui s'appelle France Travail, qui va être donc mise en place là dans les semaines et les mois à venir. Donc nous, la région de Pays de la Loire, on est déjà plutôt en expérimentation justement sur cette réforme. Moi, j'étais pour une régionalisation de Pôle emploi. Bon, ça n'a pas été le choix du gouvernement ou même des gouvernements précédents, parce que là, du coup, vous avez la proximité. Nous, on a la compétence économique. Je trouvais qu'il y avait du sens de donner cette compétence aux régions. Bon, ça n'a pas été le choix qui a été fait. Mais aujourd'hui, il y a une réforme, justement, qui est en cours. Après, on ne va pas se voiler la face aussi. Hein. Le taux de chômage qu'on peut avoir aujourd'hui, alors ce que je vais vous dire, ce n'est pas politiquement correct, mais c'est quand même aussi la réalité. Il faut aussi que la valeur travail soit supérieure à la valeur de l'assistanat. C'est une évidence. Et aujourd'hui, il y a une réforme qui a été initiée, qui va aller encore un peu plus loin. Tant mieux. Et qu'aujourd'hui, il faut aussi s'adapter en fonction du marché du travail, comme ça peut se faire au Canada. Je pense que c'est une bonne réforme et il faut pousser dans ce sens. Mais le travail, enfin, sur cette réforme aujourd'hui, en effet, il y a moi, je l'entends auprès des chefs d'entreprise qui ne passent pas par Pôle emploi pour faire une recherche de salariés. Vous voyez, quand je sillonne la région, vous voyez des grandes affiches devant les entreprises, recherche salariés, etc. Ce qui n'est pas normal. Ou vous passez une annonce sur le bon coin. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et l'objectif, là, vraiment, c'est de mettre aussi... Il y a beaucoup trop d'acteurs. Enfin, moi, je vous le dis, il y a beaucoup trop d'acteurs aussi qui gèrent l'emploi. Donc, du coup, la visibilité, elle est pas... Enfin, c'est une spécialité, d'ailleurs, française, hein. Moi, quand j'ai vu le ministre du Travail qui me présente l'organisation de France Travail, je lui dis bah, ouais, là, vous avez une armée mexicaine, vous avez mis tout le monde, vous voulez fâcher personne. Mais sauf que la visibilité pour l'ensemble des acteurs, vous avez la mission locale, vous avez Cap Emploi, vous avez la région, vous avez Pôle Emploi, vous avez des acteurs des territoires, etc. Enfin, la visibilité, tout le monde fait son truc dans son coin, et puis en fin de compte, ça ne fonctionne pas. Moi, l'idéal, ça aurait été de tout mettre à plat, que ce soit sur la formation, sur le travail. Bon, ils étaient en pleine réforme des retraites, donc ils ne pouvaient pas avoir tous les combats, ce que je peux entendre parfaitement. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai travail de fond à faire. En tout cas, moi, je suis acteur dans cette réforme, et c'est pour ça qu'on lance cette expérimentation à plusieurs niveaux. Un, d'abord, ce que je vous évoquais sur les dispositifs de formation qui partent du besoin des entreprises. On inclut maintenant donc, les départements avec les bénéficiaires du RSA, enfin... C'était juste incroyable quand même. Les bénéficiaires du RSA n'étaient pas inclus dans les chiffres du chômage. Ils n'étaient pas inscrits aussi directement. Ce n'était pas logique, systématique d'être inscrits chez Pôle emploi. Enfin, voilà. Là, maintenant, ça va l'être. Donc l'objectif, c'est de travailler aussi avec les départements. Et puis à l'échelle plus locale, notamment ce que nous, on appelle les CLEFOP, ce que j'aime pas comme terme, mais en gros, c'est de travailler bassin d'emploi par bassin d'emploi avec l'ensemble des autres collectivités, je pense aux mairies, aux communautés de communes, les départements aussi, pour travailler aussi, parce que l'enjeu de la formation est essentiel, le lien entre entreprise et formation, je vous l'ai dit, mais également sur tous les freins annexes. Et les freins annexes, on s'en rend peut-être pas toujours compte, mais ça peut être sur l'hébergement, ça peut être sur la mobilité, ça peut être sur les gardes d'enfants, tous ces points-là qui sont essentiels, et donc ça se travaille bassin d'emploi par bassin d'emploi au plus près du territoire.
Bon, bah merci. Alors, on pourrait en discuter encore longtemps, hein, parce que je crois que c'est vraiment... On vous sent passionné. Mais il y a un autre sujet aujourd'hui qui est inquiétant pour la planète. C'est effectivement tout ce qui est environnement, transition écologique, le réchauffement climatique. On en entend parler tous les jours. Que fait la région ? Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place ? Et comment on se situe par rapport à d'autres régions ?
Alors, je vous le disais, c'est vrai, trois priorités, l'emploi, la jeunesse et la transition écologique. Mais la transition écologique que je porte, c'est pas celle qui oppose les territoires. C'est-à-dire que quand vous habitez sur un territoire très rural et quand vous habitez la ville de Nantes où vous avez tous les transports en commun, une gare au pied de chez vous, les tramways, etc., c'est pas la même chose. C'est pas celle non plus, la transition écologique que je porte, pas celle non plus qui oppose les hommes et les femmes. Quand moi je vous parle de transition écologique, aujourd'hui c'est une responsabilité collective qu'on doit tous avoir pour les générations à venir. Et là encore une fois, je vous parlais dans mes propos d'introduction, il faut avoir de la modération, de la nuance. Pas d'être pour, contre, quoi que ce soit. C'est comment on fait tous ensemble. Moi, je crois beaucoup à cet enjeu transition écologique, mais tous ensemble. C'est-à-dire l'État, la région, le département, le bloc communal, nos industriels, parce que la transition écologique passera par le monde économique, par nos industriels. Et notamment, en effet, en tant que présidente du port de Nantes-Saint-Nazaire, on vient d'avoir la labellisation d'un grand projet pour le captage de CO2. Les pays scandinaves, d'ailleurs, sont déjà très, très à l'affût de ce projet-là. Ça fait plus de 10 ans. Et donc là, on travaille avec l'ensemble des industriels du territoire, justement, sur ce captage de CO2. Et cette transition, elle passera par nos entreprises. Moi, je suis très fière, en tant que présidente de région, de savoir que l'avion vert d'Airbus, il va se faire dans la région des Pays de la Loire. Très fière également aussi d'avoir la première production d'hydrogène vert qui s'est fait là, juste à côté, à Bouin. Très fière également de porter le ciment vert par Hoffmann, qui est un gros groupe de cimentiers dans la région des Pays de la Loire. Vous voyez, toutes ces transformations, elles vont se faire par le monde économique et il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on accélère dans ce sens et notamment de leur faire conquérir de nouveaux marchés. Nos agriculteurs également, et là je tiens à dire qu'il faut qu'on soutienne nos agriculteurs aujourd'hui. Moi, je les rencontre assez régulièrement, quel que soit, il y a plusieurs agricultures et ça, il faut le conserver, il faut le préserver. Mais aujourd'hui, il faut dire qu'en France, on a l'agriculture la plus durable du monde. Qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'être accompagnés. Il faut une production locale. C'est une question de souveraineté aussi alimentaire. Et ça, il faut en avoir vraiment conscience et qu'ils font déjà des efforts. Ils vont participer aussi encore à ces efforts. Nous, on a mis en place les fermes bas carbone, justement, avec des diagnostics via la chambre d'agriculture. Et donc, l'objectif, c'est de travailler agriculteur par agriculteur et puis, justement, de faire le lien entre le monde économique et le monde agricole. Et puis enfin, nos concitoyens, sur des gestes du quotidien, parce qu'il ne faut pas oublier, même un petit geste qu'on fait tous individuellement, peut-être le tri sélectif de nos poubelles, la préservation de l'eau, où là aussi, ce n'est pas en abondance, on l'a bien vécu pendant cet hiver, où il fallait faire attention à l'électricité, ben, l'eau c'est pareil, donc sur des gestes du quotidien, nos concitoyens aussi doivent faire des efforts. Et ça, moi je suis très très attachée, justement, à ce collectif, la nuance, et puis quand on parle de transition écologique, on vit dans une période de transformation, de mutation, alors qui peut donner aussi quelquefois un peu le vertige, qui peut un peu faire peur, mais on va vivre cette période-là. On a la responsabilité de changement pour les générations à venir. C'est au niveau de la transition écologique, au niveau du numérique également. Et comment on devient acteur en travaillant tous ensemble. Et les résultats et les réponses, elles seront collectives. Ce n'est pas en s'opposant qu'on y arrivera. Et je pense qu'on vit une période, je pense, qui peut être très, très forte. Moi, notamment dans la région des Pays de la Loire, il y a deux sujets sur la transition écologique pour lesquels je me bats. D'abord, l'énergie. L'énergie aujourd'hui, justement, pour avoir notre souveraineté énergétique. On l'a bien vu, notamment, on le voit au quotidien sur nos factures, les entreprises, etc., la guerre en Ukraine, ce que ça peut avoir comme conséquence sur nos territoires et sur notre quotidien. Donc, quand on parle d'énergie, c'est le mix énergétique. Moi, j'ai, dans la région des Pays de la Loire, la seule centrale à charbon qu'il peut y avoir au niveau national, donc qui est vouée à fermer, et heureusement. Qu'est-ce qu'on fait après? Et donc ça, il faut l'anticiper, d'avoir aussi cette vision qu'on a un peu perdue aussi en politique, hein, d'être notamment pendant la crise sanitaire, d'être en immédiateté, réponse tout de suite. Non, il faut aussi qu'on anticipe, d'avoir une vision sur du moyen et long terme, et notamment sur cette centrale à charbon. Alors aujourd'hui, il y a un projet qui est porté donc plutôt sur du court terme avec EcoCombust, donc qui est des pellets qu'on fait chauffer à la place de charbon, sans rentrer dans le volet technique. Et moi, je porte donc un projet qui est des SMR, des mini centrales nucléaires aujourd'hui. Toutes les centrales à charbon aux États-Unis se transforment en SMR. Hein. Et donc ça, c'est un projet moyen et long terme associé à de l'hydrogène. Et ça, ça va nécessiter, forcément, quand on parle de nucléaire aujourd'hui, ça va nécessiter de la concertation. Mais c'est une nécessité aujourd'hui parce que cette centrale à charbon, elle approvisionne l'ensemble de la région des Pays de la Loire et 20% de la région Bretagne. Donc il faut avoir des projets ambitieux à long terme qui vont faire travailler aussi recherche, développement, innovation, tout l'enseignement supérieur, nos ingénieurs, etc., sur le territoire. Et puis quand je parle de mix énergétique, c'est aussi l'éolien. L'éolien notamment en mer. Et donc aujourd'hui, alors il y a un deuxième parc. Donc on a eu le premier parc dans la région des Pays de la Loire, donc sur le parc du banc de Guérande. Deuxième parc qui sera donc le parc des deux îles Noirmoutier et l'Île-Dieu. Et l'objectif, c'est aussi de travailler sur des parcs plutôt flottants. Mais là, une seule condition, et c'est ce que j'ai évoqué avec le secrétaire d'État et avec le gouvernement sur cet enjeu de l'éolien en mer, il faut savoir que le parc de Guérande, il approvisionne 20% d'électricité de la Loire-Atlantique. En revanche, sur l'éolien, ce qui est sûr, c'est que là aussi, il faut de la concertation avec l'ensemble des acteurs. Avec l'ensemble des acteurs. Je pense aux pêcheurs, je pense aux maires qui sont souvent les derniers avertis et qu'on travaille ensemble sur une planification. Et puis, deuxième condition essentielle, c'est aussi de faire travailler nos entreprises du territoire. Il est hors de question de mettre des éoliennes qui viennent de Chine. Et oui, là, sur le parc des deux îles, il y avait quand même un risque. Et donc, moi, je me suis battue avec le président du département de la Vendée. On a une entreprise qui s'appelle Rolix des Fontaines. Et donc, j'ai eu l'annonce la semaine dernière. Et donc, cette entreprise va permettre l'approvisionnement de ces éoliennes. Et donc, l'objectif, c'est de travailler avec, de créer une vraie filière sur le territoire. Mais si c'est made in China, c'est pas la peine. Et donc, aujourd'hui, voilà, il faut un mixte énergétique si on veut avoir cette souveraineté énergétique sur nos territoires. Sinon, malheureusement, on est dépendant des autres. Donc ça, c'est pour moi quelque chose d'important. C'est le premier volet sur l'énergie. Alors, adossé à tout ça, bien évidemment, je pense à l'hydrogène. Je pense également aux méthaniseurs, etc., sur le territoire. Mais là, encore une fois, avec un travail collectif. Puis le deuxième enjeu, les transports, qui sont une compétence forte de la région. C'est bien évidemment transport des TER. Quand on parle des transports, donc c'est les TER. On a les lignes également de car que vous utilisez peut-être pour venir à l'Île-Dieu, donc Fromentine, notamment Fromentine-Nantes. On a également les transports scolaires. On a en effet la liaison maritime entre Fromentine et l'Île-Dieu. Et donc là, l'objectif également sur la transition écologique, c'est un, de déployer notre offre de transport en commun sur l'ensemble de la région, donc de plus de 30% à horizon 2030. Et notamment avec le déploiement de RER qu'on appelle métropolitains qui vont se déployer donc dans la région, avec 67% d'augmentation d'offres. Et puis également le verdissement de ces motorisations. C'est pas simple du tout, mais on y travaille, notamment sur des lignes de car, avec soit en fonction des territoires, des lignes 100% électriques, biogaz, d'hydrogène, etc. Et puis voilà. Donc sur les transports, en tout cas, c'est un enjeu essentiel aujourd'hui dans le cadre de la transition écologique. Ça a été le cas, c'est vrai que pour parler notamment un sujet sur l'Île-Dieu, donc on a remplacé donc l'insula Ouya 2 par le 3. Donc aujourd'hui, en termes de motorisation, on est encore sur un moteur diesel parce qu'au niveau des bateaux, la technologie n'est pas encore au point. Et c'est vrai qu'on est en pourparlers donc de remplacer les deux catamarans. On a pris un petit peu de temps dans le lancement de l'étude parce que moi, aujourd'hui, en 2023, de me dire on va lancer le remplacement des deux catamarans avec une motorisation diesel, me poser quelques questions. Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore une fois la technologie. Donc motorisation diesel avec électrification donc au départ et à l'arrivée. Pour ces futurs bateaux. Mais pour moi, c'est essentiel, justement, la transformation de notre flotte sur l'ensemble des transports vers ces nouvelles énergies vont être essentielles dans le cadre de la transition écologique. Mais encore une fois, c'est des sujets qui sont... moi, je le vois, hein, je suis beaucoup, beaucoup sur le terrain, qui peuvent être crispants. Il y a les pour, il y a les contre. Mais il y a un moment, essayons de travailler ensemble. Et ça, aujourd'hui, si on veut réussir ces enjeux-là, si on veut réussir ces mutations qui sont devant nous, il faut vraiment de la modération et de la nuance et d'essayer de travailler tous ensemble. Et on réussira la transition écologique si on travaille tous ensemble.
Alors, avant de donner la parole au public, je voudrais poser quand même une dernière question concernant l'environnement. Depuis quelque temps, on sait, le grand public sait qu'effectivement, il y a une grosse déperdition concernant l'eau dans les réseaux. Est-ce que, au niveau des régions, que ce soit la région des Pays de la Loire ou des autres régions, est-ce que vous faites à un moment donné le forcing pour que peut-être des budgets soient dégagés pour commencer à régler ce problème, parce qu'on sait qu'il va être forcément extrêmement coûteux, mais que c'est sans doute aujourd'hui ce serait une des solutions sur le papier les plus faciles à mettre en œuvre pour récupérer bêtement les 10% ou même plus d'eau qui sont perdues dans le réseau.
Là aussi, c'est un sujet extrêmement sensible, l'eau. Mais l'eau, il faut bien savoir que c'est la vie derrière. Et nous, on a mis en place deux plans. Alors, c'est sur deux sujets. C'est d'abord, la qualité d'eau. Parce que même si la région des Pays de la Loire est une région plutôt dynamique, je vous le disais, taux de chômage plus faible, nombre de créations d'entreprises, enfin, on est souvent sur les podiums en tête. En revanche, sur la qualité d'eau, on n'est pas bon élève du tout. Dans la région des Pays de la Loire, c'est 11% de bonne qualité d'eau. Donc moi, tant que je serai présidente de cette région, je ne peux pas accepter ça. 11% de bonne qualité d'eau. Donc on travaille justement d'abord sur la qualité. Donc là aussi, c'est un travail collectif avec l'ensemble des acteurs. Et notamment, on a voté au mois de mars dernier, notamment sur les points, sans rentrer dans le volet technique, mais sur les points de captage, d'avoir des zones d'expérimentation avec zéro phyto. Des budgets aussi conséquents vis-à-vis de l'État et de la région pour justement améliorer cette qualité d'eau. Malheureusement, moi, sur ce mandat, je ne verrai pas les résultats. C'est très, très long. Mais aujourd'hui, on doit bien évidemment tous y participer parce que ce n'est pas acceptable aujourd'hui d'avoir 11% bonne qualité d'eau. Et puis, en parallèle, au mois de juin dernier, on a adopté un plan sur la quantité. Je vous l'évoquais il y a un instant. Je pense que ça aussi, on ne peut pas faire... je pense que la sobriété en termes au niveau de l'eau doit être de rigueur pour tout à chacun. Et là encore, on accompagne sur des expérimentations. Il y a eu le grand sujet aussi des réserves d'eau au niveau du monde agricole, bon, qui ont plus concerné d'ailleurs les Deux-Sèvres. Mais je sais que dans la Vendée, on a des réserves d'eau. Et donc, les réserves d'eau, là aussi, ce n'est pas pour ou contre. Ça dépend des territoires, ça dépend comment c'est fait. Donc, sur tous ces sujets-là, aujourd'hui, encore une fois, c'est une mobilisation collective. Il ne faut pas hésiter à lancer des expérimentations. En tout cas, la région finance aussi la recherche, le développement, l'innovation sur des sujets qui, pour moi, sont essentiels parce que, de toute manière, on ne pourra pas faire comme on a fait précédemment.
Et donc, sur la réhabilitation des réseaux d'eau, puisque, en fait, on sait qu'on a, ce que je disais tout à l'heure, c'est, on sait qu'on a des réseaux d'eau qui sont très anciens et qu'il y a une grosse déperdition, mais les élus qui aimeraient bien régler le problème, parce que ça serait de l'eau qu'on pourrait récupérer, ben, nous disent systématiquement, mais ce sont des budgets colossaux qui ne sont pas à la portée des collectivités locales, quoi.
Oui, mais il y a des accompagnements aujourd'hui sur ces transformations. À titre d'exemple, c'est au Sable d'Olonne, il y a le projet Jourdain, qui va être un projet totalement innovant aussi sur le territoire, notamment récupération des eaux usées. C'est quand même extraordinaire en France de mettre de l'eau potable dans nos toilettes. Pardon, hein. Pardon d'être aussi concrète que ça, mais quelque part, moi, ça me pose un peu problème. Vous voyez, en Espagne, il n'y a pas de problème. Donc là, je sais qu'il y a une réforme aussi au niveau national. Mais ça, sur ces projets-là, il y a des accompagnements au niveau national et au niveau d'autres collectivités, départements ou la région.
D'accord. Donc maintenant, si vous êtes d'accord, je propose qu'on prenne les questions du public.
Je voulais savoir ce que vous pensiez des bassines, dont on parle beaucoup, voilà, s'il y en a sur la région. Et...
Il y en a sur la région, je vous le disais à l'instant, justement en Vendée. Mais je crois que ça fait plus de 25 ans qu'il y a déjà des réserves d'eau. Je ne dis pas les bassines, parce que les bassines, ça aujourd'hui un terme péjoratif. Et ça fonctionne très bien. Et c'est la mise en place de ces réserves d'eau en Vendée il y a un peu plus de 25 ans ont permis aussi une approche et un travail des agriculteurs. C'est-à-dire avec la baisse notamment de la culture de maïs, avec de nouvelles cultures, etc. Et ça a vraiment été fait avec tout un écosystème. En revanche, ce qui est valable aujourd'hui sur certaines zones de la Vendée ne le sera pas en Maine-et-Loire. Par exemple, d'avoir des réserves d'eau en Maine-et-Loire parce que le territoire ne s'y prête pas, parce que les bassins versants, etc. ne s'y prêtent pas. Et donc, on ne le fera pas. Donc, c'est pas Il y a un moment, il faut travailler avec territoire par territoire, voir ce qui est judicieux et pas judicieux. Le problème sur ces sujets, vous voyez, on entend beaucoup, on entend tout et son contraire. Vous avez les opposants et les pour. Et donc tout ça, ça ne crée pas une vraie synergie. En revanche, encore une fois, enfin, il faut bien prendre conscience aussi que notre agriculture a besoin d'eau. Si l'agriculture n'a pas d'eau, on n'a rien dans nos assiettes. Enfin, c'est clair. Et alors, si on veut juste importer toute notre alimentation qui vient d'ailleurs, aucun problème. Il faut qu'on l'assume. Mais qu'on ne vienne pas parler de développement durable aussi derrière. Hein. Enfin, c'est tout. Bon, aujourd'hui, quand on parle même de bio, nous, on est la première région à pousser, à pousser le bio. Et à maintenir, parce qu'aujourd'hui, le bio a plutôt tendance à être en perte de vitesse. Le coût du lait bio coûte aujourd'hui du producteur coûte moins cher que le lait conventionnel, ce qui est aberrant totalement. Donc, moi, je préfère justement accompagner le territoire local sur l'agriculture, qu'il soit bio ou pas bio, plutôt que de faire venir, du lait du Zimbabwe. Hein. Enfin, je caricature un petit peu, mais c'est... Et donc ça, c'est un enjeu essentiel de préserver notre agriculture, et notre agriculture a besoin d'eau. C'est essentiel. Enfin, vous essayez de faire pousser chez vous, dans votre jardin, quelque chose, s'il n'y a pas d'eau, ça ne marche pas. Alors après, il faut accompagner aussi la transformation qu'on peut avoir, on aura moins d'eau, et comment on accompagne aussi nos agriculteurs à avoir une transformation aussi, de leur culture, et puis avoir des systèmes aussi d'irrigation ou de systèmes différents. Moi, je vous donne juste un exemple qui m'a vraiment, mais vraiment mis en colère. C'est les maraîchers nantais qui ont été victimes de saccages, mais inqualifiables. Visage découvert, hein. Forcément, les gens qui sont venus saccager et tout, visage découvert, ils savent pas de problème, de toute manière, ils n'auront rien. Mais je trouve ça scandaleux, parce que c'est des années de travail, et derrière, c'est aussi des gens qui s'engagent dans la transition écologique. Moi, j'ai visité juste après, j'ai échangé avec eux, je peux vous dire que l'ensemble des personnels étaient totalement anéantis. Comprennent pas, parce que justement... Là, ils ont mis en place des serres avec un système d'expérimentation, de récupération d'eau qui alimente trois types de bassines avec une expérimentation, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore mis en place, pour voir avec le premier bac avec de la biodiversité, le deuxième sans rien et le troisième avec des espèces de petits palais devant, pour voir un petit peu et pour pouvoir le mettre en place sur l'ensemble des maraîchers par la suite. Et ça, comment on vient saccager tout ça? C'est inadmissible. Inadmissible. Et donc aujourd'hui, en effet, il faut travailler sur l'expérimentation, faire plus de recherche et développement sur ces enjeux-là, parce qu'en tout cas, c'est essentiel.
Alors, en fait, c'est une réflexion concernant la formation. À Lille-Dieu, particulièrement à Lille-Dieu, les étudiants ont pas mal de mal à avoir des stages sur le continent, mais je pense que si on généralise, dès qu'on est éloigné des grands centres urbains, les étudiants ont beaucoup de mal à se connecter, surtout dans le tertiaire, à des possibilités d'avoir une forme d'accompagnement, surtout dans les formations supérieures. Et je constate en même temps qu'il y a beaucoup de télétravail qui se généralise dans les tertiaires, y compris à Lille-Dieu. À Lille-Dieu, en hiver, il y a beaucoup de gens qui viennent télétravailler. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des formes de mentorat à créer, à accompagner, qui permettraient de faire une sorte d'intermédiaire entre l'éducation par l'apprentissage et une forme de formation avec un accompagnement permettant à des compétences qui existent à l'Île-Dieu, par les gens qui télétravaillent, qui sont souvent passionnés par leur boulot, qui cherchent aussi à se connecter avec tous les gens qui sont présents sur le territoire. Et il y a sans doute une forme de lien social en même temps que de transmission qui pourrait, dans les territoires qui pourraient être un peu éloignés des centres urbains, se créer, et puis la région pourrait accompagner. Et l'avantage, c'est que c'est des trucs qui ne coûtent pas beaucoup d'argent, mais qui, par contre, nécessitent une dynamique de mise en place, je ne sais pas sous quelle forme. Mais quand je viens télétravailler l'hiver, ma femme est originaire de l'Île-Dieu, et moi, je suis du continent, donc je vois à peu près les deux côtés de la barrière, et je me dis, il y a quand même une ressource potentielle de croisement qui est fabuleuse. Voilà, c'était une réflexion aux questions.
Non, pourquoi pas y travailler? C'est vrai que nous, on a mis en place un site qui s'appelle nosemplois.fr, où vous avez, recherche d'emploi, mais également recherche de stage et d'apprentissage. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut aussi déployer et travailler ensemble. Mais ce qui est évident, et j'insiste là-dessus, sur les stages, quel que soit le stage, hein, que ce soit post-bac ou même le stage, encore une fois, de troisième, ce que vous évoquez, il y a bien évidemment ici à Lille-Dieu, mais même dans des villes, dépendant du milieu dans lequel vous grandissez, bah, vous n'avez pas accès à toutes les entreprises. Et c'est aussi difficile, même dans les quartiers un peu plus sensibles, par exemple sur Nantes ou dans les grandes villes, mais ils n'ont pas accès plus facilement aux stages. Et donc là, moi, c'est pour ça que j'insiste, et on est en train de réfléchir justement à une grande opération de rencontre aussi, de mettre en relation les entreprises et les jeunes pour ces stages. Et j'insiste là-dessus, et c'est le message que je porte aussi des chefs d'entreprise, auprès des chefs d'entreprise. Je dis, vous ne pouvez pas vous plaindre que vous n'avez pas de main-d'œuvre si vous ne prenez pas des jeunes. Et moi, j'entends, oui, mais on ne peut rien leur faire faire ou quoi que ce soit. Mais qu'importe, qu'importe. C'est que l'objectif, c'est d'ouvrir aussi. Oui. C'est quelque chose qu'on peut très bien travailler. Mais j'insiste aussi sur le côté du stage, mais même en dehors, enfin, de prendre, c'est essentiel, un, sur l'orientation, et puis sur leur parcours aussi, de prendre ces jeunes. Et aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'entreprises qui accueillent des jeunes en troisième, post-bac ou autre, et puis après, des initiatives sur le territoire qu'on peut très bien expérimenter. Moi, je suis très, très friande aussi de l'expérimentation. Parce que ça, c'est aussi le gros défaut en politique, c'est on a un dispositif, on le garde, et puis... On garde 20 ans, 30 ans, 40 ans et on ne bouge pas. Non, ce qui marche, on le garde. Ce qui ne marche pas, il faut savoir dire stop, on arrête. Et donc de commencer à tester avant de le déployer sur un plus large territoire, je trouve ça pas mal. Mais avec grand plaisir de lancer une expérimentation.
Bonjour. Deux questions. La première revient sur les jeunes. Les avez-vous rencontrés, leurs parents, leurs professeurs ? Pour qu'il y ait justement cet échange entre quelles sont leurs demandes, leurs souhaits, leurs aspirations, et aussi, bien sûr, pour créer des aspirations, des demandes auprès de ces jeunes, leur faire connaître. Qu'est-ce que pratiquement, quel est le rôle que vous avez pour le moment joué à l'Île-Dieu en rencontrant, je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas, les jeunes d'ici dans les écoles, donc jusqu'au collège, surtout les collégiens. Et la deuxième question, la problématique pour les jeunes ici, c'est est-ce que je reste, est-ce que, bien sûr, je vais découvrir le monde, le continent, les différents métiers, pas seulement ceux qui existent à l'Île-Dieu. Et là, je reviens à la transition écologique et aux tensions qu'on connaît sur l'habitation, et la possibilité aux jeunes qui vont vieillir, comme nous, et qui souhaitent rester sur l'île, en lien avec la transition écologique, qu'est-ce que la région peut faire en lien avec la mairie pour des constructions, pour des actions concrètes, pour que la transition écologique, quand on voit que les méthodes classiques de le ciment, le béton, on parlait de ciment vert, bon... Et comment faire évoluer ici toutes ces constructions? Les filières bois existent sur la région, par exemple. Les récupérateurs, en effet, vous en parliez, c'est très prosaïque, mais aussi l'action que chacun d'entre nous pouvons mettre pour récupérer l'eau pour nos jardins. Bon, quelles sont vos possibilités, vous, en lien avec, puisqu'on est à l'Île-Dieu, avec la commune ici? Bon, il y a beaucoup de questions dans mon... C'est un peu large, désolé.
D'abord sur les jeunes, vous avez entièrement raison. Alors moi je fais depuis le début de ce nouveau mandat des séquences, la présidente à votre rencontre, où je suis en immersion pendant 48 heures sur un territoire avec une réunion publique. Je l'ai fait à l'Île-Dieu, enfin Noirmoutier, et après l'Île-Dieu, là, courant du mois de juillet. La réunion publique, malheureusement, il y avait peu de jeunes. Là je constate aussi qu'il y a peu de jeunes. Merci à vous d'être là. Mais je pense que c'est logique.
Dans les écoles.
Oui, non mais je vais terminer, j'y viens. Mais ce qui est logique, parce que des formats comme ça, les jeunes, ils se disent non, et je vais pas avoir la parole ou quoi que ce soit. Parce que c'est un peu ça, généralement, quand il y a un ou une politique, ça veut dire qu'ils vont faire un discours et puis moi, je vais pas pouvoir m'exprimer. Et donc, quand moi, je les ai réunis à la région début décembre avec tous pour travailler un peu sur le nouveau projet du Big Bang de la jeunesse, certains me disaient... Sur le coup, on s'est dit, pourquoi c'est nous qui avons été sélectionnés pour venir participer? Ça va être ennuyeux, mais ça va être ennuyeux. En fin de compte, ils sont ressortis, ils étaient vraiment très, très heureux de pouvoir y contribuer et participer. Ce que je vous disais, donc là, moi, je viens avec grand plaisir. Je pense qu'il y a une professeure d'un établissement qui est là. Je pense qu'on peut y travailler ensemble. Non, au contraire. Encore une fois, moi, je suis très attachée à être sur le territoire, d'être sur le terrain. Et donc, à disposition pour une rencontre avec les jeunes, quand vous voulez. Et puis, alors, sur votre autre question, nous, on n'a pas... Enfin, moi, je suis très attachée aussi à... Je vous le disais en introduction, j'ai trois valeurs qui sont fortes pour moi, la liberté, le travail et le mérite. Et la liberté, enfin, j'impose pas. Je suis attachée en France qu'on ait chacun cette liberté. Sur les matériaux, après, nous, on intervient par aide de subvention avec la mairie, mais nous, on n'a pas le pouvoir d'imposer tel ou tel. Après, il y a des réglementations au niveau national. Et puis, encore une fois, c'est le côté que j'évoquais tout à l'heure sur la transition écologique, du collectif. On a tous cette responsabilité, après, une prise de conscience à avoir.
Ça passe par la formation et la formation des jeunes, en effet, pour qu'ils puissent s'ouvrir et pratiquer autrement et faire évoluer.
Ah oui, mais c'est aussi dans les centres de formation où il y a des évolutions sur les techniques, les modes de construction, etc., pour citer que le bâtiment. Mais ça, c'est déjà enclenché. Mais après, l'objectif, c'est encore une fois du collectif, tout individuellement, à se dire qu'est-ce que je fais aussi pour la planète. C'est pas de la faute uniquement de Pierre-Paul Jacques, c'est moi aussi, comment je peux faire aussi pour y contribuer.
Bonjour, Clément, je fais partie du collectif Les Enfants de Tempête sur l'île-Dieu. Voilà, donc je vais vous parler avec mon cœur. On est quand même dans une situation assez dramatique. Hein. Je suis un enfant de l'île-Dieu, j'ai un enfant de 3 ans et demi aussi qui grandit ici. L'horizon est totalement bouché, absolument bouché. On se sent complètement abandonné par les politiques. Quel est l'avenir d'un enfant de l'île-Dieu qui voudra rester ici ? Il ne pourra pas acheter, il ne pourra pas louer, il ne pourra pas prétendre monter une entreprise, il ne pourra plus avoir accès aux pas de porte. L'horizon est bouché absolument partout. Les enfants de l'île-Dieu sont exclus de leur territoire. On est en train de jouer l'île-Dieu au poker, ils n'ont même pas l'argent pour miser et s'asseoir à la table de jeu. Donc, je dis, ça me touche parce que j'aime ce territoire absolument de toutes mes forces. Et je me demande à quel moment on va venir nous aider. Parce que les règles du jeu ne fonctionnent plus. Vous parlez de jeunesse depuis tout à l'heure, je suis d'accord avec vous. La jeunesse ici, elle est abandonnée totale, elle n'a aucun avenir. Elle va se faire foutre. C'est un bateau où on met les enfants de l'île-Dieu à la flotte, clairement. Et je trouve ça absolument injuste, détestable, et j'aurais vraiment aimé que les politiques et tous les élus soient là pour dire ce territoire qu'on aime, on l'aime aussi parce qu'il est peuplé, parce que ce sont les gens de l'île-Dieu qui ont fait l'île-Dieu et son charme. Et il faut absolument qu'on soit écouté, entendu et défendu au plus haut de sphère, parce qu'il nous faut des nouvelles lois. Il va falloir, moi je suis d'accord avec vous, je suis pas pour, comment dirais-je, les discussions tendues et tout ça, mais il va falloir dire les choses. Parce que ce débat, on ne l'a jamais eu. Et ne pas l'avoir, ce n'est pas ça qui va apaiser les tensions. Il va falloir qu'on parle qu'une île à 70, 75, 80% de résidences secondaires, ce n'est plus tenable. Il va falloir qu'on parle que 1000 locations saisonnières sur un territoire, ce n'est pas tenable. Il va falloir qu'on parle de tout ça. Il faudra qu'on arrive à ça de toute façon. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Voilà. Donc je vous demande, en tant que présidente de région, je parle à la présidente de région, est-ce que vous êtes prête à aller défendre aux plus hautes sphères l'île-Dieu que vous aimez et sa population qu'il faut pour moi défendre au même titre que la dune et que tout ce qui est beau ici, quoi, là.
Je me doutais que ce sujet allait être évoqué. S'il n'avait pas été évoqué, je serais interrogée.
C'est le sujet le plus important.
Oui, c'est un des sujets les plus importants. Ce que vous vivez sur l'île-Dieu, Noirmoutier, c'est la même chose. Sur l'ensemble de la côte, c'est la même chose. Oui. Je vous laisse vous exprimer. Je veux juste apporter mes réponses. On m'interroge sur un sujet qui est, je sais, très sensible ici, mais comme il est aussi très sensible à Noirmoutier, et comme il est le maire de La Baule, qui est un de mes vice-présidents, c'est exactement la même chose sur son territoire, pouvoir aussi loger les saisonniers, etc., les gens, partout, sur toute la côte, et ce qui n'est pas uniquement valable d'ailleurs dans la région des Pays de la Loire. Vous prenez Saint-Malo, vous avez dû entendre aussi à Saint-Malo ce qui peut se passer. Moi, j'ai vécu sur la côte basque, où il y avait des panneaux partout, le Pays basque n'est pas à vendre, etc. C'était un phénomène sur tout l'ensemble de nos côtes. Maintenant, moi, je n'ai pas la solution miracle, et je le dis aussi avec beaucoup de franchise, je ne viens pas avec une baguette magique pour tout résoudre les problèmes. J'aimerais bien, mais je n'ai pas encore ce pouvoir-là. En revanche, sur le côté du logement, là, j'en appelle vraiment. Et je pense qu'il faut, en effet, et je suis prête, par contre, à initier justement ces rencontres, ces discussions, mais surtout, ne tombons pas dans un piège pour, contre. Pour les résidences secondaires, contre, laissez-moi terminer, contre... Non, mais ça serait une erreur et tout le monde en serait perdant. Tout le monde serait perdant. Non, mais je veux juste terminer, si vous permettez. Eh bien oui, mais il y a d'autres personnes qui sont présentes. Non, mais montez. Il y a un moment aussi, on va dire les choses très calmement, posons-nous et ayons de la nuance et de la modération. Je peux entendre la colère de ne pas pouvoir, etc., de vous loger. Par contre, il y a aussi des phénomènes où les gens qui vendent les maisons qui sont originaires de l'île-Dieu, qui vendent aussi ces fameuses maisons à des prix très importants.
Non, mais là, je suis désolé, mais c'est un argument qui fait du bien à tout le monde. Mais aujourd'hui, les règles du jeu ne marchent plus. Garder du patrimoine ici, quand on est une fratrie, qu'on va récupérer une maison qui coûte 1 million, qui est estimée à 1 million d'euros, c'est impossible. Tout est fait aujourd'hui pour que les maisons soient vendues aux plus offrants, qui ne seront jamais des enfants d'île-Dieu, bien sûr. Donc les règles du jeu ne sont plus du tout les mêmes. Je suis désolé de vous dire, mais cet argument, ce sont les îlets qui vendent, ils s'en mettent plein les poches. Ça a été sûrement le cas.
Non,
mais ça a été sûrement le cas à un moment. Aujourd'hui, c'est mort.
C'est mort.
Non, je ne dis pas ce que vous avez dit.
Mais qu'il y a un moment, je suis convaincue qu'il y a des solutions à trouver ensemble. Moi, je n'ai pas la compétence du logement, donc je ne vais pas vous dire je vais construire, je n'ai pas cette compétence-là. En revanche, travaillons ensemble avec l'ensemble des acteurs. Je crois savoir qu'il y a des projets sur l'île-Dieu, voilà, où c'est difficile à mettre en place, alors que c'est pour loger des îlets. Oui. Et que visiblement, il y a des oppositions. Donc il y a un moment, je pense qu'il faut arriver à apaiser et trouvons ensemble des solutions. Moi, le département a cette compétence aussi et on est prêt à y travailler avec eux. Moi, cette réunion, en effet, madame, ça a été évoqué. Je ne vais pas vous dire, paf, il y a un système. Mais ce n'est pas propre à l'île-Dieu. Pardon ? Non, mais ce n'est pas être là pour défendre. Moi, je ne suis pas dans un camp et dans un autre. Hein, parce que ce n'est pas du tout... Mais défendre vos territoires. Mais trouver des solutions, c'est trouvons des solutions ensemble pour que tout le monde puisse vivre apaisé ici sur cette île. Et encore une fois, ce qui est valable à l'île-Dieu, c'est valable aussi à la Baule, c'est aussi valable à Noirmoutier, c'est aussi valable au Sable d'Olonne. Yannick Moreau, avec qui je discute régulièrement, c'est pas propre à l'île-Dieu. Donc travaillons ensemble sur des solutions très concrètes. Mais ne montons pas les uns contre les autres. Parce qu'aujourd'hui... Non, je veux juste terminer ma phrase, si vous permettez. Moi, je vous laisse parler. J'aimerais bien juste terminer ma phrase.
Allez-y.
Et qu'aujourd'hui, on a besoin des uns et des autres. C'est qu'aujourd'hui, l'économie... Et je donnais cet exemple sur la Côte Basque où j'ai vécu. Il n'y a pas d'usine pour l'emploi. Ici, sur l'île-Dieu, c'est là exactement la même chose. Je pense qu'on a besoin des uns et des autres. Les résidences secondaires, bah, derrière, il y a du bâtiment, il y a des travaux, il y a de l'emploi, il y a tout ça. Et donc, c'est de travailler ensemble et pas... Si on arrive à s'opposer, à opposer les uns et les autres, tout le monde, moi, je vous le dis, mais j'en suis convaincue, tout le monde sera perdant. Et donc, arrivons, je pense qu'il y a des solutions à trouver avec... Il y a des acteurs ici, sur cette île, qui sont prêts aussi à s'engager, peut-être travailler avec vous, mais dans l'apaisement, c'est pas en créant ces tensions.
On s'oppose à personne. Juste pour la petite histoire de ce qui se passe ces dernières années sur la thématique du logement. En 2019, il y avait un rapport qui avait été demandé par le gouvernement à Monsieur Laglaize, député à l'époque, sur comment casser l'engrenage de la hausse des prix du foncier. De ce rapport-là, il y a eu une proposition de loi, dont un amendement avec un certain nombre d'idées, validé à l'Assemblée, arrivé au Sénat, mort au Sénat, mis dans un tiroir complètement oublié. Premier point. Plus récemment, on a eu le CNR sur le logement, où on a réuni 400 spécialistes, experts sur la thématique du logement, qui ont pondu un nombre de mesures, d'idées incalculables. Ça arrive sur le bureau de Madame Borne, qui retient 9 mesurettes à la noix, 9 ou 10, je ne sais plus, et puis tout le reste, ça part aux oubliettes. Encore plus récemment, il y a eu un rapport qui a été... émis par plusieurs ministères, trois ou quatre, sur l'attrition des résidences principales, enfin des résidences principales par les résidences secondaires dans les territoires touristiques. 78 mesures pondues par des experts. Il y a vraiment des choses très intéressantes là-dedans. Il en ressort le 18 juillet que le gouvernement retient 14 mesurettes, dont la moitié sont des trucs qui existent déjà, qui fonctionnent pas. C'est des observatoires. Si on va regarder ce qui va se passer, on va faire des diagnostics et il n'en sort rien. Donc notre question vraiment, c'est à quel moment est-ce qu'on a un président de région ou un ensemble de présidents de région qui vont expliquer au gouvernement que ce genre de processus, ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire missionner des experts, faire des tonnes de mesures, retenir un truc pour faire un communiqué de presse vague où on va retenir des pauvres mesurettes qui ne servent à rien, on ne s'en sortira pas. Là, on a besoin vraiment que les politiques aillent expliquer que cette méthode, elle va nous tuer, vraiment.
Et ce que vous évoquez, c'est valable dans le logement, mais c'est valable dans d'autres domaines. Je parlais de formation, c'est exactement la même chose. Et dans la région des Pays de la Loire, il y en a une poussée démographique. Donc à horizon 2050, on attend plus de 500 000 personnes de plus dans la région. On fait comment pour les loger ? Aujourd'hui, en Vendée, il y a des entreprises qui peinent à recruter faute de logement. Et quand vous évoquez la politique du logement, elle est plus globale. Je donnais cet exemple. Alors là, on a un nouveau ministre depuis. On a eu un nouveau ministre du logement. Peut-être que voilà, il va prendre le problème à bras le corps. Mais qui se souvient aujourd'hui du ministre du logement, d'un ministre du logement qui a fait bouger les choses ?
Olivier Klein, Emmanuel Wargon, le dernier, c'est Verglitz.
Non, mais quelqu'un qui fait bouger.
Enfin, vous voulez que le ministre se bouge ?
Ah bah c'est quand même, oui, c'est quand même son rôle. Mais vous savez, enfin, moi, je vais vous raconter autre chose sur le logement, sur Angers, une ville qui est très étudiante, qui est en train d'avoir une grosse poussée en nombre d'étudiants. Moi, je fais la rentrée, c'était il y a 2 ans, universitaire là-bas. Quand j'entends qu'il y a des jeunes qui dorment dans leur voiture pendant un mois et demi, 2 mois, faute de logement, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Et qu'aujourd'hui, il y a faute de logement pour accueillir les étudiants. Donc ce phénomène-là, oui, à l'Île-Dieu, bien évidemment, il y a quelque chose à travailler, encore une fois, ensemble. Je pense qu'il y a des solutions. Mais plus globalement, je pense qu'en France, il faut une vraie politique du logement qui n'a pas lieu ou qui n'a pas eu lieu depuis tant d'années. Ça, c'est clair. Et là-dessus, c'est un combat que je mènerai bien, bien volontiers. Mais ici, ça me semble important, je me permets d'insister. Ne tombez pas, j'insiste parce que je sens forcément monter. Je pense que ces réunions permettent aussi, comme la réunion l'autre jour que vous étiez présente, je pense que c'est nécessaire de dialoguer, de trouver des solutions ensemble. Et on peut trouver des solutions. Je donne juste un exemple sur les logements saisonniers où il y a des difficultés aussi pour les accueillir. Franck Louvrier à La Baule, il a racheté le camping municipal et il fait des logements justement pour les logements saisonniers. Donc nous, on accompagne aussi financièrement ces initiatives, qu'elles soient publiques ou privées, pour trouver des solutions. Donc avec grand plaisir, pour ouvrir au moins le dialogue, pour que les gens puissent se parler. En tout cas, vous pourrez compter sur moi.
Donc c'est bien noté. Donc je propose qu'on passe à une autre question.
Nantes Atlantique est l'aéroport de la région. Et est-ce que vous pouvez nous faire un bilan des suites de la non-réalisation du projet qui était un projet régional, approuvé par référendum local et soutenu par l'intégralité de tous les élus locaux de la région qui ont tous été désavoués par le gouvernement dans cette affaire? Où en est-on après un certain nombre d'années sur l'état du transport aérien pour la région et notamment depuis la reprise post-Covid, pour tous les gens de la région qui s'étaient exprimés contre le maintien de l'aéroport, on voit réapparaître un trafic aérien très important qui passe, disons, 300 mètres au-dessus des habitations, dans l'axe de l'hôpital, nouvellement construit. Et donc, on était sur un projet structurant régional qui n'a pas pu aboutir, dans lequel on avait envisagé éventuellement un deuxième traversée de la Loire entre Nantes et Saint-Nazaire, et puis dans lequel on avait prévu une voie rapide de TGV qui devait venir du barreau de Laval à travers Notre-Dame-des-Landes. Alors, où en est-on de cet immense gâchis ?
C'est une bonne question. C'est une excellente question. J'ai eu l'occasion de faire quelques déclarations et d'avoir pas mal d'échanges avec le ministre des Transports, avec le ministre de l'Écologie, avec la Première ministre sur ce sujet. Quand le gouvernement a pris la décision de ne pas faire l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, ça a été bien évidemment une grosse déception pour le territoire, un projet vraiment qui est, vous l'avez dit, c'était même au-delà de la région des Pays de la Loire, puisque même le projet qui incarnait aussi et qui englobait aussi la région Bretagne. Après, une fois que la décision a été prise, moi j'ai souhaité, avec l'ensemble des élus de la région, que ce soit les départements, les maires des grosses agglomérations et notamment avec la maire aussi de Nantes, de se projeter aussi vers l'avenir et demander aussi des compensations, même si il n'y aura jamais des compensations à celles d'un nouvel aéroport. Donc d'où la mise en place du contrat d'avenir. Le constat aujourd'hui sur ce contrat d'avenir, rien n'a été fait. On arrive sur une période où je suis en pleine négociation avec ce qu'on appelle le contrat plan État-Région sur les infrastructures. Et ce que j'ai dit au gouvernement, je dis, comment voulez-vous aujourd'hui qu'on parle d'un futur contrat plan État-Région 2023-2027, sachant que sur le contrat d'avenir, rien n'a été fait. Donc aujourd'hui, je mène un petit peu un bras de fer avec eux. D'abord, qui respectent leur engagement et notamment des travaux immédiats. Quand je parle de travaux immédiats, je ne demande pas non plus, c'est pas extraordinaire, hein, c'est l'aménagement de la plateforme aéroportuaire, 2, des parkings, et 3, la piste, de refaire la piste. Et ça aurait dû être fait avec le concessionnaire actuel. Ce qui se passe, pour être très transparent avec vous, c'est que l'État a lancé donc le changement du nouveau concessionnaire. Il y a un concessionnaire actuel, il faut remplacer ce concessionnaire parce que les délais étaient... Et donc aujourd'hui, ils sont devant un problème juridique parce qu'ils évoquent dans ce contrat l'allongement de la piste. Et l'allongement de la piste, aujourd'hui, personne ne l'avait demandé en tant qu'élu. Et donc aujourd'hui, ils sont dans un problème très juridique. Pour être très transparent avec vous, ils ne savent pas comment s'en sortir. Et que là, moi, je vois, et vous avez entièrement raison, je lis la presse tous les jours, je reçois plein de messages, plein de mails, plein de SMS sur cet aéroport. C'est catastrophique. Et ce que j'ai dit au gouvernement, c'est qu'aujourd'hui, la région des Pays de la Loire... c'est inacceptable d'avoir un aéroport comme celui-ci. J'ai rien contre les pays d'Afrique, mais même dans les pays d'Afrique, ils ont des aéroports, des plateformes aéroportuaires beaucoup plus modernes, beaucoup plus compétentes, compétitives que celles qu'on peut avoir. Et donc aujourd'hui, moi, je pousse justement pour avoir des travaux immédiats sur cet aéroport, parce que là, cet été, ça a été une grosse catastrophe en termes de décalage de vol, en termes d'accueil aussi du public, des valises perdues, etc. C'est pas acceptable. Donc le gouvernement a bien conscience, je pense qu'ils sont un peu dans une impasse, et qu'il y a un moment, moi ce que je leur ai dit, ce que j'exige, c'est pas tant le concessionnaire, vous prenez qui vous voulez, mais que des travaux soient faits très rapidement sur cette plateforme. Et derrière, bien évidemment, en parallèle, je me permets de le dire aussi, c'est aussi cette liaison, parce que non seulement on n'a pas un aéroport, mais en plus, on n'a pas une liaison ferroviaire digne de ce nom. Je ne sais pas si certains viennent en train pour venir, enfin au moins jusqu'à Nantes, c'est qu'aujourd'hui, la liaison entre Nantes et Paris est beaucoup plus lente qu'au moment de son inauguration, et qu'on a des régions aujourd'hui en termes de compétitivité sur un territoire, et ça c'est important. Vous avez la région Bretagne, vous avez un Rennes-Paris à 1h27, vous avez la région Nouvelle-Aquitaine avec un Bordeaux-Paris en 2h, et qu'à un moment, si on veut rester une région dynamique et attractive, on se doit d'avoir aussi des infrastructures dignes de ce nom, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc en tout cas, c'est mon combat du moment, d'avant l'été, et qui arrivera certainement dans très peu, dans quelques jours, pour continuer justement ce bras de fer, parce que je ne lâcherai rien dès l'instant qu'il s'agit d'attractivité de la région.
Alors, juste une dernière question.
Bon, maintenant, c'est une question. Madame la Présidente, bonjour. Non, simplement, bon, déjà, pour les liaisons ferroviaires ou par avion, c'est plus d'actualité de prendre l'avion, il paraît. C'est plus écologique. Donc, peut-être il faut effectivement aller plus vers le train. Bon. Non, moi, je voulais revenir sur l'éolien, parce que j'habite une région qui est proche de la vôtre, qui est du côté d'Orléans, où je suis en pleine Beauce, donc dans les champs, dans les mers de blé, et c'est devenu un champ éolien. Moi, j'ai une maison très ancienne que j'ai retapée depuis 50 ans, et on vient de me coller 5 éoliennes devant chez moi. Et il y en a partout. Est-ce que vous, en tant que personne, vous y croyez à l'éolien? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment écologique? Qu'est-ce qu'on fait des palmes? Comment on recycle? On alimente les gens en leur donnant du pognon. parce que les cultivateurs, ils prennent l'argent parce que ça leur fait du bien. Et tout ça, dans 20 ans, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces trucs qui nous polluent, quoi? Donc c'est, ça ne marche pas. Mais on n'a pas le choix, mais là, bon, je vais laisser répondre Madame la Présidente. Voilà. Et après, il y aurait d'autres questions à poser sur la culture, quelle est la politique culturelle, mais on fera une autre.
Non, sur l'enjeu de l'énergie, j'en parlais tout à l'heure, là encore une fois, vous voyez, il faut vraiment être dans la nuance, la modération, c'est pas pour ou contre, c'est qu'aujourd'hui, de toute manière, si on veut une souveraineté énergétique, on n'a pas le choix et ça doit être, ça passe, et moi, c'est une conviction profonde, par le mix énergétique. Un, le nucléaire, et deux, justement, ces énergies renouvelables. En revanche, moi, j'ai fait un voyage d'études il y a quelques mois au Danemark et en Norvège. En arrivant là-bas, j'étais persuadée qu'ils étaient vraiment pour, à 100%, ces nouvelles énergies. Non, pas du tout. Notamment, les Norvégiens sont très attachés aussi à leur patrimoine, à leur paysage, etc. En revanche, ce que je disais, ce qui est essentiel, c'est de travailler avec l'ensemble des acteurs. Et eux, ils ont de grandes concertations. Et qu'aujourd'hui, en France, alors là, vous parlez de l'éolien terrestre. Moi, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'éolien en mer. Quand on a une façade atlantique, eh bien, c'est pas idiot de pousser justement sur l'éolien en mer et notamment l'éolien flottant un peu plus loin des côtes. Après, sur l'éolien terrestre, je pense que là, il faut avoir ce que j'appelle moi le mitage des éoliennes par-ci par-là. Je pense que c'est pas une bonne idée parce que de toute manière, il n'y a pas une acceptabilité. En revanche, de travailler sur des zones avec des vrais parcs, plusieurs parcs, et notamment qu'il n'y ait pas de nuisance vis-à-vis de la population. Mais aujourd'hui, si on veut notre souveraineté énergétique, on n'a pas le choix. Il faut vraiment travailler sur ce mix énergétique. En tout cas, on parle d'éolien, on parle de nucléaire, mais il y a aussi la méthanisation, il y a aussi l'hydrogène, il y a aussi le solaire. Il y a plein de choses qu'on doit déployer tous ensemble. Encore une fois, en concertation, je pense que ça, c'est le clé de la réussite. Et faire en sorte aussi que ça soit une production locale, française ou européenne. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à oublier qu'aujourd'hui, la concurrence, elle est plutôt au niveau chinois ou américain. Et donc, si on veut avoir une vraie filière, construire une vraie filière, des emplois, de la formation derrière sur ces sujets-là, des ingénieurs et qui ne partent pas ailleurs, ben justement, il faut structurer tout ça et travailler ensemble. Voilà.
Merci Christelle. Merci pour vos réponses. Merci à tous pour vos participations.
Merci à tous de votre présence et de nos échanges. J'étais vraiment très heureuse d'avoir ce dialogue. Et voilà, tout le monde a pu s'exprimer. Je trouve ça vraiment très intéressant. Merci beaucoup.